Bonjour, aujourd'hui le 20 juillet, des rencontres spirituelles, en particulier avec le monde du Carmel. C'était il y a quelques jours la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel et c'est aujourd'hui la fête de celui qu'on appelle Saint Élie. C'est le fameux prophète Élie, dont la vie est assez curieuse, mais c'est très intéressant et on dit dans la tradition du Carmel, les Carmes, les Carmélites, que Élie aurait été, pour ainsi dire, le fondateur du Carmel. Mais c'est une façon de parler. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et je voudrais aussi vous parler, quelques instants, de Sainte Marguerite. C'est sa fête aujourd'hui. Vous savez, c'est Sainte Marguerite qui est apparue à Jeanne d'Arc, dit-on. C'est l'une, en tous les cas, des trois voix qui ont exhorté Jeanne d'Arc à libérer la France des Anglais qui occupaient la France. Cette Sainte Marguerite est connue chez les Grecs sous le nom de Macrine, mais c'est pas la même Macrine que celle dont je vous ai parlé hier. Cette Macrine d'Antioche est connue sous le nom de Marguerite, donc, chez les Latins, dans l'Église, disons, catholique. Et dans la tradition des grandes églises, comme l'Église anglicane. Sa célébrité à Sainte Marguerite remonte à une légende qui s'est développée énormément par des mystères. Vous savez, les pièces de théâtre qu'on jouait au porche des églises au Moyen-Âge. Et on a raconté toutes sortes de choses au sujet de cette Sainte Marguerite. Elle était très populaire au temps de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? C'était, dit-on, ce qu'on peut retenir, en tous les cas, qui semble vraisemblable. C'était la fille d'un païen qui s'appelait Édésius, qui a chassé Marguerite de son foyer quand elle est devenue chrétienne. Faut pas s'étonner de ça, ça se fait encore. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des familles, même catholiques, qui vont chasser de leur foyer quelqu'un, un membre de leur famille, jeune, qui va se convertir à une autre religion. Ce qui est, à mon avis, bien maladroit. L'amour doit passer par-dessus ces choses-là et on doit regarder la sincérité de la personne qui cherche. Et si la personne ne cherche pas du même côté que nous, faut pas s'y opposer. Il faut au contraire tendre la main et être très fraternel à l'égard de gens qui ne pensent plus comme nous. C'est très simple, il me semble. Il suffit d'aimer, c'est tout. Je me souviens de la conversion d'une jeune fille dont je m'étais occupé, une juive qui est devenue chrétienne, elle a désiré devenir catholique, c'était une amie. Elle était très belle, elle avait 20 ans. Ça fait un tel chagrin à son père qu'il l'a chassé de la maison et même son pauvre père, qui était très bon, en est mort quelques mois plus tard, hein, d'une crise cardiaque, tellement il était désolé de voir sa fille trahir au fond le Dieu unique et devenir, à ses yeux, polythéiste, puisqu'elle était devenue catholique et qu'elle adorait même du pain et du vin. Aux yeux, vous savez, des noms catholiques, des noms orthodoxes et des noms anglicans de la High Church, de la Haute Église, et même de bien de nombreux luthériens, etc. Cette foi est très difficile à comprendre pour ces gens-là, il ne faut pas leur en vouloir. Alors donc, elle a été chassée, Sainte Marguerite, par son père, et s'est réfugiée chez sa nourrice, elle a gardé des troupeaux. Elle a été remarquée par un préfet, un homme important, qui a voulu l'épouser. Et comme elle lui a refusé sa main, il l'a suppliée. Il l'a suppliciée, pardon. Il l'a suppliée, puis il l'a suppliciée. C'est-à-dire qu'il lui a fait endurer des supplices épouvantables. Et cette jeune fille, cette jeune vierge, a préféré mourir. Et c'est elle qui est apparue à Sainte-Jeanne d'Arc. Elle dit, on rapporte dans le procès qu'elle a subi, le préfet qui voulait l'épouser lui pose une question, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et elle dit, c'est assez beau sa réponse, « Les hommes m'appellent Marguerite, mais mon plus beau nom est Chrétienne. » C'est dans les vieux actes de cette sainte qui est morte martyre au IIIe siècle. On ne sait pas au juste quelle année, mais on sait que c'est un 20 juillet. Je veux donc vous parler de Saint-Élie. Et saviez-vous d'ailleurs que, en Palestine, en Israël, il arrive qu'on puisse entendre à la radio musulmane, chaque semaine, l'invocation « Viens Élie ». C'est un speaker musulman qui dit ça à la radio, chaque semaine. La présence d'Élie est très très marquée hein, sur les pentes et au sommet du mont Carmel en Israël. J'y suis déjà allé. Je vous raconterai une anecdote très étonnante qui m'est arrivée là-bas. Pour situer géographiquement donc cette montagne du Carmel, on peut dire que c'est un des hauts lieux de l'histoire religieuse du monde. C'est le lieu de pèlerinage à Saint-Élie par excellence. C'est une montagne sacrée qui domine la baie de Saint-Jean d'Acre. On voit ça dans des films sur les Templiers, sur les croisades. Et Saint-Jean d'Acre, d'Acre, A-C-R-E. C'est un cap. Et autrefois, la montagne portait un autre nom. On l'appelait Roche Kadosh, ce qui voulait dire le cap sacré. Un peu comme à Québec, ce cap diamant. Le Carmel n'était rien d'autre qu'un lieu de plaisir et de détente pour le peuple juif, pour les riches s'entend à l'époque. Aujourd'hui, sur ses pentes, il y a de luxueuses villas qui ont été construites. La route est bordée de bougainvilliers et même de frangipaniers à fleurs rouges et d'oliviers, des beaux oliviers. Seul le sommet du Mont Carmel a conservé sa physionomie d'autrefois. C'est là que, d'après les traditions des Carmes, a été construit le premier sanctuaire qui a été dédié à la Sainte Vierge, c'est ce qu'ils prétendent. Il faut imaginer quand on est là, et c'est ça qu'on voit, un beau ciel bleu. C'est comme on le voit sur les cartes postales, c'est magnifique. Dans la brume, au loin, on devine la ville de Nazareth où a grandi Jésus, où a vécu la Vierge. Il y a même un puits, hein, où on dit que la Vierge allait puiser l'eau. On voit ça au loin. On voit aussi la colline sacrée du mont Tabor, ce mont sur lequel Jésus est apparu dans toute sa gloire, en compagnie, justement, du prophète Élie, dont c'est la fête aujourd'hui. En bas, au loin, on voit Haïfa, une ville moderne avec ses cubes blancs, les hautes cheminées qui fument des industries. Sur le promontoire aussi, il y a aujourd'hui une basilique qui est entourée de postes de vigie qui sont occupés par la marine. Il y a un phare aussi. Il n'y a rien de biblique dans tout ceci. Mais à l'autre extrémité de la montagne, à 28 kilomètres, il y a la chapelle d'El Moubraka, c'est-à-dire du sacrifice. C'est récent, cette basilique. Au loin, le mont Tabor, donc, et en bas, la plaine d'Esdrelon, c'est là qu'Élie, enfin, on va y revenir, et dans les rues d'Haïfa pour la Pâque juive, ou pour la célébration des circoncisions, il y a un cortège souvent qui chante des invocations aux prophètes. Le 20 juillet, c'est le 20 juillet aujourd'hui, n'est-ce pas, toutes les races, toutes les religions, qu'elles soient catholiques, juives, musulmanes, vénèrent le prophète Élie. Les musulmans avaient établi au sommet du mont un mihrab, vous savez, ces espèces de petites alcôves, en somme, tourner vers la Mecque, afin d'indiquer aux musulmans, profondément croyants, la direction vers laquelle ils doivent prier Dieu, c'est-à-dire vers la Mecque, où il y a cette fameuse pierre noire, et ce centre du grand pèlerinage que tout musulman devrait faire au cours de sa vie, s'il le peut. Et ce mihrab est actuellement entre les mains des Israéliens. La grotte où aurait vécu Élie est sous la basilique dont je vous ai parlé. Sur le versant de la montagne, on trouve une autre grotte plus vaste, qui est appelée l'école des prophètes. Alors, les parois de cette grotte sont couvertes d'invocations au prophète Élie. Il y en a qui datent du 4e siècle, c'est pas d'aujourd'hui. On y célèbre les trois cultes, donc le culte chrétien, en particulier le 14 juin, où il y a alors une messe qui est chantée en l'honneur de Saint Élisée, celui qui lui a succédé, le prophète qui lui a succédé. Et il y a un culte musulman. Aujourd'hui, c'est assez ralenti. Il y a peu d'Arabes qui résident dans la région. Et c'est au culte juif, donc, que revient la garde de la grotte. Élie est né dans un village dont il ne reste plus rien aujourd'hui. C'est proche de la montagne. Et très tôt, Élie ressent un appel. C'est la vocation qu'il ressent. Il part au service de Dieu, vêtu d'un manteau de poil de chèvre. Il se ceint les reins d'une lanière de cuir. Et sa vie errante va être une incessante bataille, n'est-ce pas, contre les rois qui sont des rois impies. On lit ça dans le livre des rois, dans la Bible. Tout l'essentiel de l'histoire d'Élie est là. Mais d'autres livres de la Bible, dans le Nouveau Testament, l'associent à la venue du Christ. Je vous en ai glissé un mot sur le mont Tabor. Jésus a été parfois d'ailleurs considéré comme Élie ressuscité par certains juifs de l'époque. Élie vivait dans la plus absolue pauvreté, comptait sur Dieu pour lui venir en aide. On raconte que les corbeaux lui apportaient du pain le matin, de la viande le soir, près du Jourdain, où il s'était un moment installé. Un jour, il s'est rendu chez une pauvre veuve au village de Sarepta. Vous connaissez cette histoire, je crois. Il avait reçu de Dieu lui-même, l'ordre d'être en charge de cette pauvre femme, qui était trop démunie. Et il avait été envoyé là pour lui donner au moins une bouchée de pain, parce que c'était la famine là-bas. Et il a fait un miracle, qui est rapporté et qu'on connaît. Il lui a donné de l'huile et de la farine. C'était stupéfiant parce qu'il n'y en avait pas. Il y en avait tout à coup. Il la gratifia d'un autre miracle fantastique qu'on rapporte et qui est étonnant. Il a ressuscité son fils, dit-on dans la Bible. Élie s'était étendu sur cet enfant mort. Il avait appuyé ses yeux sur les siens, les yeux, et ses lèvres sur ses lèvres. Il lui a rendu la vie, dit-on. Alors, pour chasser par le roi Achab, qui était un roi impie, était furieux des reproches du prophète, parce que le roi Achab était un roi juif, quoi. Mais il avait trahi le judaïsme. Alors, Élie se gênait pas pour dire ça, les quatre vérités au roi Achab. Élie a dû s'enfuir. C'est en allé sur les pentes du mont Carmel, voilà. Et c'est là qu'il allait affronter au dieu Baal, dont les faux prophètes là, avaient érigé un autel, juste en face de celui qu'Élie avait consacré à Yahvé. Alors, il y avait les deux autels, Baal d'un côté, le dieu Baal, B-A-A-L, on voit ça, n'est-ce pas, dans la Bible, dans des lectures, la liturgie catholique. Et puis, il y avait donc l'autel dédié à Yahvé, qu'Élie avait construit. Toute la matinée s'est passée en supplication. Seul Élie se taisait. Et lorsque l'heure du sacrifice est arrivée, il a prié, puis le feu du ciel a consommé l'Holocauste. Racontons dans la Bible. Si c'est mythique, c'est très beau comme symbole. Et ainsi s'est réalisée la prophétie d'Élie, « Vous réunirez sur le Carmel », avait dit Élie à Achab, n'est-ce pas, « tous vos prophètes, et devant le peuple assemblé, vos prophètes prépareront un sacrifice ». Il y aura deux taureaux. Qu'ils en choisissent un, je prendrai l'autre. Vos prophètes invoqueront leur Dieu et moi le mien. Le Dieu qui répondra par le feu, celui-là est Dieu. Alors c'est comme ça qu'on périt, dit-on, dans la Bible. C'est assez tragique, les histoires bibliques souvent. C'est ainsi qu'on périt 450 prophètes de Baal. C'est un vrai carnage. C'est assez terrible. Enfin, c'est une étrange vie que celle de cet homme, Élie, qui est envoyé par Dieu, est employé par Dieu même pour promulguer des vérités, pour annoncer d'autre part des malheurs. La vie d'Élie, donc, n'a pas été de tout repos, il a été pourchassé par Jézabel. Je me souviens, dans un voyage en Israël, de m'être assis Dans la chambre de Jézabel. Oui, ça existe. Ce sont les ruines. Elles sont un peu à ras de sol, n'est-ce pas? Elles ont à peine 2-3 pieds de hauteur. Et puis, on entre dans une pièce comme ça. Enfin, il n'y a pas de mur élevé, il n'y a pas de toit non plus, évidemment. Mais on nous dit, ça, c'est la chambre de la reine Jézabel. Ça fait très curieux, et on s'assoit là. Donc, il a été pourchassé par Jézabel, qui venait d'apprendre le massacre de la bouche de son mari, le roi Akab. Et Élie s'est remis en route vers le mont Horeb cette fois-là. L'Horeb, c'est rien d'autre que le Sinaï où Moïse a reçu les tables de la loi. Vous connaissez ça, évidemment. Et Élie, notre saint Élie, ne tient pas du tout à périr de la main des soldats de Jézabel. Alors, il a eu peur, nous raconte le livre des rois, on prend ça dans le livre des rois, et angoissé, traqué, bien, il s'isole dans les déserts. Et un jour, trop déprimé, il croit que sa fin, sa mort est venue. Il désire même mourir, et pendant 40 jours et 40 nuits, hein, ça revient souvent, ça, 40 jours et 40 nuits dans la Bible, même pour la vie de Jésus, le prophète se promène ainsi, avant d'aborder au massif qui se dresse dans la plaine à 3000 mètres. C'est haut. Il ne survit que grâce à un gâteau cuit, à une cruche d'eau, que par deux fois un ange lui apporta, en lui enjoignant de poursuivre sa route. Et Élie est revenu en la personne, dit-on, de Jean-Baptiste. C'est faux, n'est-ce pas? Jean-Baptiste proteste, c'est pas vrai. Et l'ange Gabriel, annonçant à Zacharie la future naissance d'un fils, lui dit, « Il marchera dans l'esprit très fort d'Élie. » Car Élie était un prophète courageux, audacieux, qui s'est révolté contre les abus du pouvoir. D'ailleurs, l'esprit d'Élie n'est pas prêt de s'éteindre. Et à sa mort, il y a eu des écoles de prophètes qui ont poursuivi sa tâche. Et chez les Juifs, on voit ça, c'est très beau dans le Nouveau Testament, ce courage de ces prophètes qui veulent rendre justice, que le monde devienne juste. Ces écoles n'apprenaient pas l'art de la prophétie. La prophétie, c'est-à-dire pas de prédire l'avenir, mais de dire les vérités. Mais ils développaient le don de Dieu, chez ceux qui étaient appelés à cette vocation. Et ces écoles existaient déjà au temps du roi Samuel. Et un jour qu'il marchait aux côtés d'Élisée, là, son successeur, celui qu'il avait choisi, n'est-ce pas, sur le chemin de Jéricho, bien un char de feu, vous connaissez ça, un char de feu et des chevaux incandescents lui apparurent dans le ciel. Et alors là, Élie a été enlevé dans un tourbillon. C'est une belle histoire, hein, ça. Puis, il réapparut plus tard aux côtés de Moïse, au jour de la transfiguration du Christ, sur le mont Tabor, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, nous revenons à Saint Élie, au prophète Élie. Il faut dire que le Carmel, le mont Carmel, c'était pour lui un refuge, c'était un lieu de retraite. C'est là qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est que le Carmel aujourd'hui dans l'Église catholique à travers le monde, dans tous ces Carmels, c'est-à-dire ces monastères qui portent le nom du Mont Carmel. Et il y en a un ici sur au métro Laurier, sortie nord, on va sur la rue Saint-Denis, on monte un peu le long de la rue Saint-Denis vers la gauche et tout à coup on voit rue du Carmel. Et on va à gauche un peu quelques pas, c'est pas loin, et là on voit les murs de ce monastère. Faut pas prendre peur, ce sont des femmes merveilleuses que les Carmels est à Montréal, et elles sont merveilleuses partout dans le monde, partout. Il y en a des Carmels, c'est incroyable. Mais il y a aussi des Carmels pour hommes, il y en a un maintenant, n'est-ce pas, sur la rue Amel, à l'est de la station Henri Bourassa. Sur la rue Amel, il y a des Carmes maintenant, ça ne fait pas longtemps qu'ils sont établis là. Donc, le Carmel, la montagne, là-bas en Israël, en Palestine, c'était pour lui un endroit où il aimait aller. Il aimait se retirer là, après ses longues courses, où il prêchait. C'est au Carmel, sur cette montagne, qu'il a eu la fameuse vision d'un petit nuage qui a inondé la terre d'une pluie devenue trop rare. C'est très beau dans la Bible, c'est beau symbole, en tous les cas, ces histoires, ces contes, c'est grandiose. Mais moi, j'aime beaucoup ces choses-là. La tradition, d'ailleurs, a vu dans ce nuage l'annonce de la Sainte Vierge. Et ainsi sont nés, à sa suite, les anachorètes. Encore le mot qui revient, n'est-ce pas, les anachorètes, les ermites, qui allaient désormais vivre dans son esprit, c'est-à-dire les carmes et les carmélites. Pratiquement, on peut dire que l'ordre commence à cette période, disent certains, mais il faut quand même pas exiger. Il ne s'agit pas évidemment d'un ordre organisé là, avec ses premiers ermites juifs. Ce sont tout simplement des anachorètes, des ermites, qui n'ont nullement envie de se grouper pour l'instant. Et la vie des ermites du Mont Carmel nous est pratiquement inconnue d'ailleurs. Il y a eu ensuite des ermites chrétiens. Il faudra attendre le 12e siècle pour trouver les premières tentatives d'élaboration là, d'un ordre proprement dit du Carmel. À ces ermites du Mont Carmel, du Mont qui était un mont sacré, c'était de pauvres gens, souvent très mal installés, évidemment, qui priaient dans des grottes en chantant l'office comme ils le pouvaient. Le besoin de se regrouper autour d'une règle s'est fait sentir, alors ils se sont tournés naturellement vers le patriarche de Jérusalem, qui s'appelait Albert Avogadro, qui a rédigé à leur intention vers l'an 1210 un règlement de vie. J'ouvre les guillemets. Il dit « Puisque vous demandez que nous vous tracions une règle de vie adaptée au but que vous proposez, eh bien nous suggérons ceci. Voyez. Ayez donc un prieur à qui vous vous soumettez. » L'obéissance. Hein? « Vivez dans des cellules qui garantiront votre esprit de solitude. » Restez des patères si vous ne savez pas lire l'office. Célébrez la messe. Jeûnez. Très important, jeûnez. Faites abstinence perpétuelle, c'est-à-dire ne pas manger de viande. Travaillez de vos mains. Restez en toute occasion silencieux. Le silence, c'est la vie monastique. Oh, ça peut sembler très dur aux yeux de bien des gens. Mais ceux qui ont la vocation, enfin, c'est pas tout le monde qui l'a, c'est des minorités de gens, très très peu de gens ont cette vocation, mais ceux qui ont cette vocation et qui y répondent, y trouvent un grand, grand, grand bonheur et deviennent, sur cette terre, des exemples que l'on peut regarder de loin, mais qu'on peut chercher à imiter tant bien que mal dans notre vie, dans nos vies de laïcs. Préoccupé par mille choses, il faut payer le loyer, il faut acheter de la nourriture, il faut élever nos enfants, il faut ci, il faut ça. C'est sûr qu'on est pris dans mille problèmes, mais ne pas oublier un peu de silence, un peu de jeûne, un peu d'abstinence, du travail de nos mains, de la prière, un esprit orienté vers Dieu, hein, vers la présence de Dieu. Alors les moines orientaux de l'Église orientale avait adopté le silence, hein, mais sans jamais en faire une loi stricte, eux autres. C'est les chartreux, surtout à la même époque, qui ont établi cela, et les trappistes, beaucoup plus tard. Il s'agissait plutôt alors, pour eux, de créer une atmosphère propice à la prière. Hein. Je parle des moines orientaux, parce qu'au début, au Mont Carmel, c'est plutôt des moines orientaux. Alors Albert Avogadro, dont je vous ai parlé, a remis sa règle à un ermite. C'était composé de 16-13 brefs chapitres. La caractéristique de cette règle, c'était la sobriété. Et pour qui n'est pas très averti ces choses-là, c'est à peu près impossible de savoir au juste à quel moment il est écrit. De toute façon, elle ne contient aucune précision dans le temps, aucun détail, aucune indication chronologique. Alors, on peut pas savoir quand est-ce ont été fondés vraiment là, les carmes et les carmélites. De toute façon, les carmes appartiennent aujourd'hui à un ordre moderne. Hein. La règle y est pour l'essentiel, on peut s'en douter. Tout est là, elle est moderne, c'est-à-dire valable en plein milieu, en pleine fin du 20e siècle. Hein. Elle l'était il y a 8 ans. Elle était moderne, puis elle l'est toujours. Elle fait un devoir, en somme, je vous le rappelle, de prier puis de méditer jour et nuit ce qu'enseigne Dieu. La prière, c'est le précepte central de la vie des carmes et des carmélites. Au XVIe siècle, les réformateurs que furent Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, n'y ajouteront absolument rien de plus. Faut bien savoir ça. Et au contraire, ces deux grands saints ont surenchéri sur la valeur de cette prière, qui est la porte ouverte sur la contemplation, sur la vie mystique, sur la sens de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. En somme, la règle du Carmel donne accès aux chemins, les grands chemins, qui conduisent à Dieu et en facilitent, en tout cas, la possession. Là, Alors nous sommes de retour à Rencontre spirituelle, au microphone Raymond Beaugrand-Champagne. Alors je reviens donc au Carme, au Carmélite, à Saint-Élie. Je vous parlais de la règle. Elle a été mise au point au XIIIe siècle. C'était une réaction contre le luxe. C'est une réaction contre le relâchement de qui des moines bénédictins de la grande abbaye de Cluny dont je vous ai souvent parlé. Cette grande abbaye qui était une chose absolument fantastique dans l'Église. Leur église abbatiale était plus grande que l'église de Saint-Pierre de Rome de l'époque. Leurs moines étaient tellement nombreux à travers toute l'Europe, jusqu'en Hongrie, partout, c'était incroyable, c'était immense. Ils vivaient dans un certain luxe, un certain relâchement parfois. Pas tous les monastères, faut pas exagérer. Alors, il y avait aussi l'influence de Saint-François d'Assise sur tout ça, peut-être. Et peut-être que la réaction des Carmes n'aurait pas eu lieu. Et sans Saint-François d'Assise, on peut dire que les Carmes seraient peut-être aujourd'hui de riches propriétaires terriens et non pas des moines mendiants comme ils le sont demeurés. La règle des Carmes fait obligation à ceux qui veulent la suivre de vivre, dit-on, au service de Jésus-Christ, en se nourrissant de l'Évangile. Et ceci n'est possible que dans le dépouillement absolu auquel sont invités les moines et les moniales. On pourrait la résumer en quelques mots. Prière, donc contemplation, silence, travail, pauvreté et pénitence. On peut se demander comment ça se fait que les carmélites la suivent d'une certaine façon, puis les carmes d'une autre façon. Voyez-vous, les carmélites sont enfermés, les carmes circulent, font du ministère. Alors ça peut sembler drôle qu'une règle unique permette une vie qui est relativement différente, n'est-ce pas, chez les carmes d'une part, chez les carmélites d'autre part. Ça devrait être la même chose des deux côtés. Il faut dire qu'elles sont cloîtrées comme toutes les moniales jusqu'à tout récemment. Hein. Les moniales à vœux solennels, ça existe encore d'ailleurs, beaucoup dans l'Église catholique. Les moniales à vœux solennels, qu'elles soient bénédictines, clarisses, c'est-à-dire des franciscaines, quoi. Les clarisses, ce sont celles qui suivent la règle de Sainte-Claire, celles qui a fondé, comme Saint-François, les franciscains, les clarisses. Il y en a à Valleyfield, où il y en a à Danville, il y en a dans d'autres monastères, un peu partout, des clarisses. Les bénédictines, elles sont à Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes. Il faut visiter ça pendant les vacances. Hein. Allez prier avec ces femmes. Allez-y. Les dominicaines du Grand Ordre aussi. Il y en a près de Trois-Rivières. Et alors donc, chez les chartreux, mais les femmes, d'ailleurs, ne sont pas en cellules séparées comme les chartreux. La règle du silence est d'ailleurs moins stricte chez ces femmes chartreuses que chez les hommes chartreux. C'est sans doute à cause des raisons psychologiques, peut-être. En tout cas, il est probable que si les carmélites avaient eu à sortir pour accomplir dans le monde des travaux ou quelques apostolats, mais la règle aurait subi des adoucissements. Comme on le voit dans d'autres instituts réguliers, à travers le monde, que ce soit les sœurs de la Congrégation Notre-Dame, vous savez que Sainte-Marguerite Bourgeois, quand elle a fondé ça il y a des siècles, c'était très audacieux, des femmes qui marchaient dans la rue, et qui n'étaient pas enfermées dans des monastères. C'était très, très audacieux, Sainte-Marguerite Bourgeois, pour l'époque. Il faut toujours se situer dans l'époque. Donc, notre Saint-Albert Avogadro, qui a écrit la règle, a insisté sur les trois vertus profonde, les trois vertus de fond de la vie chrétienne, soit la foi, l'espérance et la charité. Et Saint Jean de la Croix s'est appuyé également, quand il a réformé le Carmel, il s'est appuyé là-dessus tout le long de la montée du Carmel sur ces trois vertus. Sainte Thérèse, elle a affirmé de son côté, le progrès de l'oraison consiste à aimer beaucoup, donc la vertu de charité. Alors, si on revient à nos origines du Carmel, vous dites que le premier prieur général a été nommé par le pape en la personne de Berthold de Maliffré. Et à sa mort, c'est un dénommé Brocard, le père Brocard, qui lui a succédé jusqu'au jour où les musulmans ont envahi Saint-Jean d'Acre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, près du Mont Carmel, et qu'ils l'ont occupé. Alors là, les ermites qui vivaient là ont été massacrés par les musulmans en 1291. Donc en Orient, puisque nous sommes en Orient, quand nous sommes en Orient, pas le Grand Orient, c'est le Proche-Orient, là, attendons-nous, là. Et en Palestine, bien, c'était la fin de l'ordre. Les quelques religieux qui s'étaient établis en Occident en ont profité pour tenter de sauver le Carmel qui était en voie de disparition. Mais vivre en Occident une vie hérémétique qui était d'origine essentiellement orientale, ben c'était pas si simple que ça. Hein? Et depuis près d'un demi-siècle, ben, les Carmes se sont installés, s'étaient installés en Italie, et dès 1234, ils avaient fui le Mont Carmel vers l'île de Chypre, vers la Sicile au sud de l'Italie et vers Marseille au sud de la France. Et Saint-Louis, le roi Saint-Louis, les avait amenés à Paris en 1254, 20 ans plus tard. Mais le clergé séculier s'est insurgé contre ces gens-là. « Nous ne vous reconnaissons pas », répondent les évêques aux religieux qui leur demandent de les appuyer. Et au chapitre général de Montpellier, dans le sud de la France, qui s'est tenu en 1287, on recense 9 provinces de Carmes. Et c'est à ce chapitre, dans cette réunion importante, qu'est adopté le manteau blanc, qui est copié, savez-vous, sur la cape noire des Dominicains. Assez surprenant, hein? Et finalement, bien, la vie hérémétique devient de plus en plus difficile. En 1247, sous l'impulsion du fameux Saint-Simon Stock, qui était alors général des Carmes, j'en ai déjà parlé de Saint-Simon Stock, eh bien, le pape Innocent IV a décidé d'adapter la règle, puis a mis les Carmes au rang d'ordre mendiant, au même titre que les Dominicains puis les Franciscains. Et les Carmes, en somme, le sont toujours, des mendiants. Aujourd'hui encore, s'ils ont abandonné la vie hérémétique absolue, l'ordre, ça donne beaucoup à un apostolat mystique, un apostolat spirituel extrêmement important. On peut y goûter dans leur couvent de la rue Hamel, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'est de la station Henri Bourassa à Montréal. Au Moyen-Âge, parmi les grandes figures carmes ou carmélitaines, on peut citer Jean Sorette, qui a été nommé provincial de France à 35 ans et qui a été élu général 10 ans plus tard. C'était un grand réformateur. Il a ouvert la route, lui, à Thérèse d'Avila et à Jean de la Croix. Et qui sait si sans ces deux saints-là, on aurait les Carmes d'aujourd'hui qui ont été suscités par ce Jean Sorette, S-O-R-E-T-H. Pratiquement, on peut se rendre compte que c'est grâce à lui qu'on doit aujourd'hui l'existence même des carmélites, Jean Sorette. Or, il y a eu au cours des siècles bien d'autres réformes plus ou moins importantes. On peut parler de Saint Jean de la Croix, quelques instants. C'est une figure qui mérite qu'on s'y attache et que, le jour de sa fête, on en parlera très longuement parce que c'est un des plus grands saints de l'histoire du christianisme. C'était le livre de chevet de l'ordre avant le XVIIe siècle. On a l'institution des moines, ça a été très, très, très important. C'est attribué au patriarche Jean de Jérusalem, qui l'aurait rédigé vers 412, donc. Mais c'est pas possible de lui donner une antiquité aussi grande. C'est un livre d'initiation ascétique, hein, qui va retrouver toute sa force chez Jean de la Croix et chez Thérèse d'Avila. C'est un livre d'initiation ascétique, donc, au moins dans sa majeure partie. Et Thérèse d'Avila résume ça en disant « Dieu ne se donne totalement que si l'âme se donne tout à lui. » Rappelez-vous toujours, jusqu'à la fin de vos jours, cette parole de Thérèse d'Avila. Hein? C'est très carmélitain, ça. « Dieu ne se donne totalement que si l'âme se donne tout à lui. » Saint Jean de la Croix, lui, dit quant à lui, « Quand l'âme a accompli tout ce qui dépendait d'elle, impossible que Dieu ne fasse de son côté ce qu'il faut pour se communiquer à elle. » En somme, c'est un guide de la vie mystique qui insiste sur la solitude. C'est favorable à l'oraison, ça. Puis il y a toujours l'importance des trois vertus théologales, hein, la foi, l'espérance, la charité. Dans ce livre de l'institution, qui est très important chez les Carmes, qui était très important dans la vie de Thérèse d'Avila donc et de Saint Jean de la Croix. On y parle longuement de l'amour de Dieu. Je tiens à le dire parce que c'est un livre très très ancien, puis on y parle beaucoup de l'amour de Dieu. Les gens qui pensent que l'amour de Dieu vient de nous être révélé au cours des 20 dernières années, qu'ils se détrompent. L'amour du prochain aussi est enseigné très fortement. C'est écrit dans ce livre, « Si tu refuses de remplir ce devoir d'amour, tu seras réprouvé. » Aimer Dieu pour lui-même, dans le prochain, c'est la loi de charité, toujours et plus que jamais valable. Et donc, comment ça se fait qu'à partir de Saint Jean de la Croix et de Saint Thérèse d'Avila, on parle des Carmes déchaux? C'est qu'au moment de la réforme qu'ils ont accomplie tous les deux, ce nom a été donné aux Carmes qui ont suivi Thérèse d'Avila, parce que les autres Carmes qui n'ont pas voulu suivre la réforme sont demeurés chaussés. Et au XVIe siècle, la plupart des réformes qui s'accompagnaient chez les moines copiaient Saint François d'Assise qui allait déchaussé, c'est-à-dire qui allait en sandales ou nu-pieds. Vous savez que les Clarisses allaient nu-pieds. Ça, c'est curieux, mais plus maintenant. Alors, les véritables couvents de Carmes sont la plupart du temps installés en pleine ville, ce qui facilite pas toujours leur goût de la solitude. Mais ils ont suivi l'esprit de Saint Jean de la Croix profondément. Et il faut lire un peu quelques pensées de Saint Jean de la Croix. Je vous en lirai un jour, le jour de la fête de Saint Jean de la Croix, et nous y attendrons profondément, car c'est très très riche. Les ordres mendiants, comme celui des Carmes, sont toujours soumis à une certaine clôture. Il y a des régions de leur couvent où on ne peut pas rentrer. Ce sont des clôtures, c'est une façon de parler, on appelle ça la clôture. On ne traverse pas certaines portes qui sont habituellement fermées à clé. On voit ça dans les trappes, comme à Oka, chez les Bénédictins à Saint-Benoît-du-Lac. Les églises, cependant, de ces monastères sont ouvertes et on peut aller à la messe le soir à Oka, le matin à Saint-Benoît-du-Lac, c'est à 11h à Saint-Benoît-du-Lac, le soir à 7h à la trappe d'Oka. Alors, dans les églises de ces moines, Carmes, souvent, en Europe, j'ai remarqué ça, il y a le chœur des religieux. Eux peuvent voir le tabernacle et nous aussi, mais on ne peut pas voir le cœur des moines. Ils sont protégés par une grille en fer forgé. Souvent, les grilles ont été retirées depuis quelques années. Et ça forme comme un L. Vous pourrez constater ça chez les carmélites à Montréal. Je termine ce petit étude brève là, sur Saint-Élie et sur les Carmes qui se réclame de Saint-Élie, en vous disant que Élie a été le champion du monothéisme contre les rois comme Achab, comme des reines, comme Jézabel. Il a formé un jalon exceptionnel dans l'histoire d'Israël. Et son nom, d'ailleurs, résume son message, car il y a où? C'est comme ça se prononce en hébreu. Eliyahu, ça veut dire « mon Dieu, c'est Yahvé ». Et la tradition juive développe le thème de son retour lors de la parousie finale. Je termine en disant que les exégètes, spécialistes de la Bible, résument le message d'Élie en 5 points majeurs. D'abord, Yahvé seul est Dieu. Les Baals, les dieux de Baal, ne sont rien. Deuxièmement, Yahvé est un Dieu universel dont l'influence s'exerce même hors d'Israël. C'est très intéressant ça, même hors d'Israël. Hein. On voit là apparaître au loin le message de Jésus qui étend son message à toutes les nations. Troisièmement, Yahvé est maître de la nature. Pluie, vent, tonnerre, éclair ne sont que ses serviteurs. Et c'est dans la tranquillité de l'ordre que le Seigneur parle. Hein. Quatrièmement, Yahvé est le mainteneur de la morale. Sa justice éclate dans l'épisode caractéristique de la vigne de Naboth qu'on peut lire au chapitre 21 du premier livre des Rois. Et enfin, l'alliance divine forme ou informe, si vous préférez, l'action prophétique, le cri qui jaillit du cœur. de ce grand prophète et de tous les prophètes, même ceux d'aujourd'hui. Vous pouvez être un prophète dans votre milieu si vous dites des vérités fondamentales appuyées sur la grande tradition profonde. Et c'est là qu'est l'alliance divine. Il est un nouveau Moïse, Élie. Il se trouve donc chargé de mission par Dieu. Je voudrais vous dire quelques mots du bienheureux Grégoire Lopez. C'est un saint des Amériques. Il est devenu le premier ermite du Mexique. Il est né à Madrid en juillet 1542. Et il a été page d'abord à la cour du roi Philippe III, qui était le fils de Charles Quint. Donc on présume qu'il était de famille noble. Et c'est au cours d'un pèlerinage à un sanctuaire marial que le jeune Grégoire Lopez a désiré partir pour le Nouveau Monde. Et Grégoire n'était pas animé, évidemment, par l'envie d'acquérir des richesses matérielles dans ces contrées où on espérait parfois faire fortune, on le sait. Il y est parti, lui, pour devenir riche de Jésus-Christ. On a pu le qualifier, d'ailleurs, dans la tradition de conquistador spirituel. Les chrétiens généreux, il y en avait parmi les premiers Espagnols qui sont allés évangéliser les Autochtones. Un jour, je vous en parlerai longuement. C'est admirable, leur histoire. Et l'originalité de notre Grégoire Lopez a été de travailler dans l'invisible, dans le silence de la retraite. Il s'est installé au Mexique et s'y est fait ermite. Les conquistadors s'étaient rendus trop souvent odieux, d'ailleurs, aux populations indiennes, on le sait. Ils avaient des attitudes qui étaient bien éloignées de l'esprit de l'Évangile. Alors les Indiens, méfiant à la vue de Grégoire Lopez, ils se sont compris rapidement que ce blanc n'était pas comme certains des conquistadors. Il y avait des conquistadors qui étaient honnêtes, hein, un jour je vous en parlerai. Alors, ils ont vu que Grégoire Lopez se rangeait plutôt du côté des opprimés. C'est pas d'aujourd'hui que dans l'Église, de grands chrétiens se rangent du côté des opprimés. Ça a toujours existé dès le début, avec Jésus-Christ d'abord et avec les apôtres. Alors, les Indiens l'ont adopté, ils l'ont aidé à construire son ermitage, à se procurer ce dont il avait besoin pour subsister. Mais son genre de vie n'a pas été compris de ses compatriotes espagnols. On a cherché à le détourner de cette vie. On lui a même suggéré d'entrer dans une maison religieuse de Mexico. Puis là, il a fait un essai loyal, mais il était incapable de vivre en communauté. Il est retourné dans sa solitude. Et c'est cet apostolat de la prière cachée que Dieu l'appelait. C'est étrange, mais il faut bien comprendre ça. C'est là, dans le silence, qu'il s'est sanctifié. Il était rejoint d'ailleurs par un compagnon qui s'appelait Francisco Loza, L-O-S-A, Loza, qui est demeuré avec lui jusqu'à sa mort. Leur vie à tous deux était bien simple, pas de fait extraordinaire, rien de fantastique. Les quelques propos qu'on nous a rapportés de notre Grégoire Lopez, le bienheureux Grégoire Lopez, nous montrent qu'il avait appris, dans cette vie très banale du quotidien, là, vivre quoi? Ben, vivre les béatitudes. Relisez bien ça, les béatitudes, c'est très beau. J'ai reçu, d'ailleurs, d'une de mes cousines, une image de mon cousin jésuite, le père Georges O'Donoghue, qui est décédé il y a quelques mois, au mois de mai. J'ai pas pu assister à ses funérailles étant ici en studio. Et au dos de cette image, où il y a la photo de mon cousin Georges O'Donoghue, les béatitudes que j'ai relues hier avec beaucoup de plaisir, car je sens que mon cousin les a vécues chez les jésuites. Et notre bienheureux Grégoire Lopez est mort au creux des béatitudes le 20 juillet 1596. Ça fera donc 400 ans l'an prochain, âgé de 54 ans. On nous dit qu'il y avait guère dans son ermitage qu'une Bible, une carte du monde, un globe terrestre. Je trouve ça très intéressant parce qu'on peut voir là un symbole de son esprit universel, hein? La parole de Dieu bien méditée, bien vécue, ça ne sépare pas quelqu'un qui la médite intelligemment du monde entier. Et en somme, le plus solitaire ami de Dieu peut avoir l'humanité tout entière dans son cœur. Et dans le secret, il peut travailler au bonheur de l'humanité. Je termine en parlant pour nos amis vietnamiens ici, des grands saints, les bienheureux, Joseph Marie Diaz, San Hurho, et les Melchior Garcia San Pedro, qui était évêque, et leurs 23 compagnons, des martyrs pour la plupart vietnamiens. C'est le 29 avril 1951 que Pie XII les a béatifiés, ces 25 martyrs. Il les a regroupés parce qu'ils appartenaient tous au vicariat du Tonkin central, c'est-à-dire du Nord-Vietnam. Ils ont péri dans la même persécution. C'était l'accession au trône d'un roi en 1847 qui a été salué avec joie par les missionnaires, mais il s'est rallié plutôt à l'opinion publique qui s'opposait aux catholiques. Il a porté des décrets de persécution. Et alors, là, c'était épouvantable. C'était terrible. Au Tonkin central, la première victime a été le vicaire apostolique, Mgr Joseph Diaz Sanjurjo. Il était né en 1818, en Espagne. Après des études au séminaire diocésain, à l'université de Compostelle, il est entré chez les Dominicains, où il espérait réaliser plus facilement une vie de missionnaire. Il a été ordonné prêtre en 1844. Et aussitôt, il s'est embarqué pour Manille aux Philippines avec 5 autres religieux. Il est resté aux Philippines quelques mois, pendant lesquels il était professeur de lettres à l'université. Puis le jour de Pâques 1845, il est arrivé au Nord-Vietnam. Et en 1849, il était nommé coadjuteur du vicaire apostolique du Tonkin central, Mgr Marty. Puis lui a succédé en 1852. Il a fixé sa résidence à Bui Chu. Et là, la menace de persécution s'est précisée. Et quand, en 1857, un nouveau mandarin est arrivé à Bui Chu, il a voulu montrer son zèle et toucher la récompense qu'on lui promettait en dénonçant l'évêque. Et là, des soldats ont cerné le village, se sont emparés de lui, lui ont arraché sa croix pectorale et son anneau, ils l'ont jeté en prison, il a eu la tête tranchée 2 mois plus tard, le 20 juillet 1857. Et son coadjuteur, Mgr Melchior Garcia San Pedro, lui a succédé. Et puis, lui est arrivé la même chose. Il est arrêté au début de juillet 1858 et 20 jours plus tard, le 28 juillet, il a été tiré de sa prison, amené chargé de lourdes chaînes au lieu du supplice. Il a été jeté à terre, il a été attaché solidement à des pieux, nu, écartelé. Les bourreaux lui coupèrent les mains, les jambes. Et pendant qu'il invoquait Dieu et Jésus, sans se lasser, on lui a tranché la tête, on lui a arraché les entrailles, et on jeta dans une fosse ses pauvres débris, qu'on a voulu faire piétiner par des éléphants, mais les éléphants ont refusé si obstinément que les témoins terrorisés ont prévenu l'empereur, qui a ordonné de tuer ces éléphants à coups de canon, au lieu même de l'exécution. Et quelques mois plus tard, le 5 novembre 1858, ont été exécutés un prêtre indochinois, entré chez les Dominicains, s'appelait Dominique Mo, très pieux, il portait son rosaire ostensiblement, puis il a voulu mourir les mains jointes, comme s'il participait à une cérémonie sacrée. Ont été tués plusieurs prêtres indigènes. Un prêtre dominicain encore, Joseph Toine, un père de famille et cultivateur du même nom, Joseph Toine, et Laurent Gonne, qui a été emprisonné une première fois pour avoir refusé de piétiner un crucifix. Ils ont été tués. Joseph Touk, c'est un jeune homme de 19 ans, et puis Paul Dung, qui était un notable, des pêcheurs, des bons pères de famille, d'autres pêcheurs, des riches agriculteurs, même un chrétien de 60 ans, Pierre Dac, qui a été brûlé vif à Kaline, où il avait été exilé. Et beaucoup d'autres chrétiens furent massacrés à cette époque dans le vicariat du Tonkin central, donc du Nord-Vietnam, qui devait par la suite montrer une extraordinaire vitalité chrétienne. Et beaucoup des catholiques que l'on voit ici à Montréal, des Vietnamiens, viennent de cette région. Ils ont grandi par le sang de ces martyrs, et je vénère profondément beaucoup de ces grands saints qui ont fait l'Église, et j'ai beaucoup de respect pour nos concitoyens vietnamiens qui nous édifient par leur esprit de foi, leur esprit de prière. Il faut aller d'ailleurs à des messes vietnamiennes à Montréal. On ne comprend rien, tout est en vietnamien, mais que c'est bouleversant de voir leur fidélité, leur piété et leur foi.